été avec Homer. Sylvain Tesson. Le mystère de la beauté pure.
Un poème surgit de la mémoire, explose dans l'éternité. Comment expliquer qu'un récit vieux de plus de 2500 ans jaillit de la mer éternelle, résonne à nos oreilles avec tant de jeunesse, avec un pétillement aussi vivace que celui du ressac sur une côte de marbre? Pourquoi ces vers paraissent-ils avoir été écrits ce matin par un très vieux frère immortel pour nous apprendre de quoi seront faits nos lendemains? Je vois deux hypothèses à cela. Soit les dieux dont Homère se fait le chantre ont existé et ils ont inspiré leur hagiographe. Ces vers étaient donc faits pour rencontrer notre époque. Soit rien n'a changé sous le soleil de Zeus, et les thèmes qui traversent les poèmes, la guerre, la gloire, la grandeur, la mort, sont le combustible impérissable de l'éternel retour. Mais dans les deux cas, le poème homérique est un poème éternel, car l'homme, s'il a changé d'habit, est exactement le même personnage, misérable et grandiose, qu'il soit casqué sur la plaine de Troie ou en train d'attendre l'autobus dans la France de 2017. Cet été, nous allons passer des fleuves et des champs de bataille. Nous serons jetés dans la mêlée. Nous serons conviés à l'assemblée des dieux. Nous essuierons des tempêtes et des pluies de soleil. Nous pénétrerons dans des grottes et des alcôves. Nous visiterons des palais. Nous prendrons pied sur des récifs. Parfois, des hommes mordront la poussière, frappés à mort. D'autres seront sauvés. Toujours, les dieux veilleront. Homère est notre très vieux compagnon d'aujourd'hui. Demandons-lui ce qu'il a encore à nous dire. L'Iliade est le récit de la guerre de Troie. L'Odyssée raconte le retour d'Ulysse en son royaume d'Ithaque. En d'autres termes, l'un est le champ de la guerre, l'autre celui du retour. Mais les deux scrutent la condition humaine. À Troie, c'est la ruée des peuples en guerre, manipulés par les dieux. Sur le bateau d'Ulysse, c'est la possibilité d'échapper à son destin. La malédiction de la guerre ici, la possibilité du Nil là-bas. L'Iliade et l'Odyssée, le temps des héros, puis l'aventure intérieure. Ces textes ont cristallisé des mythes qui se répandaient dans les populations des royaumes mycéniens et de la Grèce archaïque et qui continuent aujourd'hui à abreuver nos imaginaires. Ils transcrivent des épopées hautement responsables de ce que les Européens sentent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils sont. Sans que nous nous en rendions compte, les héros de ces chants vivent en nous. Leur héroïsme nous fascine, leurs passions nous sont familières, leur folie nous effraie. Ils sont nos frères et nos sœurs évaporés. Athéna, Achille, Ajax, Hector, Ulysse, Hélène, vous êtes parmi nous. D'où viennent ces chants? Et comme ils semblent étranges. Ils sont peuplés de monstres, de magiciennes, belles comme la mort, d'armées en déroute, d'amis fidèles et intransigeants, d'épouses sacrificielles et de guerriers furieux. Les tempêtes se lèvent, les murailles s'écroulent, les dieux font l'amour, les soldats sèchent leurs larmes sur des tuniques en sang, et parfois, la caresse d'une reine arrête un brave vengeur. Une question, elle domine tout. L'homme sera-t-il libre de ses choix ou devra-t-il obéir à son destin? Est-il un pauvre pion ou une créature souveraine? Pourquoi ne laisserions-nous pas se déployer en nous, le temps d'un été, venu du fond des âges, ce poème chatoyant d'une modernité électrique, éternel parce qu'originel, un chant de bruit et de fureur, riche de leçons et de soleil, et d'une beauté si douloureuse que les poètes continuent aujourd'hui à le murmurer en pleurant. Si je voulais vous donner un conseil, vous qui allez vous embarquer avec nous pour le temps d'un été, je voudrais vous dire de tout abandonner sur le champ, de replier vos parasols et de lire ces poèmes à haute voix, debout, dans le vent, devant la mer, devant un alpage, pour laisser monter en vous les échos d'un chant inhumain et sublime.
Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pille à Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. Par leur propre fureur, ils furent perdus en effet, ces enfants qui touchèrent au troupeau du dieu d'en haut, le soleil qui leur prit le bonheur du retour. À nous aussi, filles de Zeus, conte un peu ses exploits.
Quand on a lu les 15 000 vers de l'Iliade et les 12 000 vers de l'Odyssée, on se demande à quoi bon écrire encore. L'Iliade et l'Odyssée déploient un tel génie du récit qu'elles semblent inaugurer l'âge de la littérature en même temps que clore le cycle de la modernité. Et c'est peut-être à cause de la beauté de ces chants, de leur construction parfaite, de leur puissance, que le mystère plane encore sur leur auteur. Qui était Homère? On appelle « question homérique » cette savante dispute sur l'identité de l'auteur. On sait que Homère a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. « 400 ans avant moi », dit Hérodote. Donc Homère n'est pas un reporter de guerre, puisque la guerre de Troie, qui constitue le sujet de l'Iliade, a eu lieu en 1200 avant le Christ, d'après les découvertes archéologiques initié par Heinrich Schliemann dans les steppes de l'Asie mineure. La civilisation mycénienne a rayonné de 1400 à 1200 avant Jésus-Christ, puis elle a disparu. Il y a donc eu 400 ans de transmission orale, de souvenirs, de légendes, d'épopées, avant qu'un être, affublé du nom d'Homère, ne rassemble tous ces matériaux pour constituer son poème. Mais attention, Homère, qu'il soit un artiste symboliste ou un documentaliste, est d'abord un poète. Il veut clamer son chant sur la tragédie de la vie et la beauté du monde. Alors de plusieurs choses l'une. Soit il y a eu un génie pur, un seul, un poète aveugle, qui aurait tout inventé, ex nihilo, 400 ans après la guerre de Troie, un créateur inégalable, un démiurge doublé d'un monstre qui aurait inventé la littérature comme on découvre le feu. Soit, Homère est le nom qui se dégage d'une lignée de rhapsodes, c'est-à-dire de poètes, tels qu'ils coururent jusqu'à une date récente sur les rivages de la mer Égée, capables de réciter de longs poèmes de mémoire. Des milliers de vers. On dirait aujourd'hui un collectif d'artistes. Ils auraient au fil des siècles rassemblé des traditions, ils auraient rapiécé un texte comme on répare un manteau d'arlequin. Ils auraient intercalé une pièce par-ci, ajouté un morceau de bravoure par-là. Bref, l'Iliade et l'Odyssée seraient cette mise en ordre de traditions orales. Cela permet d'expliquer les passages disparates, bizarrement polyphoniques. Ou alors, c'est la troisième possibilité, et c'est la thèse de Jacqueline de Romilly, la vérité est à mi-chemin, et Homère aurait lui-même assemblé des récits de la tradition orale en les collectant, en leur donnant une forme, un style, sa manière artistique à lui, sa tournure. il aurait été l'alchimiste, mélangeant des hauts faits et des épisodes pas forcément contemporains les uns des autres. Alors si on y réfléchit bien, est-ce que cette méthode de cuisine artistique n'est pas ce qu'on pourrait appeler l'inspiration ? Mais après tout, puisqu'Homère convoque Mnémosyne, la muse de la mémoire, pour nous raconter ses histoires, finalement peu importe de savoir qui en est le scribe, quelle que fût la source, multiple ou unique, Homère fut contemporain de l'époque où les Grecs s'inspirèrent de l'alphabet phénicien et retrouvèrent un usage de l'écriture qui avait disparu pendant les âges sombres qui suivirent l'effondrement de Mycène. Les savants se demandent toujours si l'Iliade et l'Odyssée décrivent les sociétés de Mycène ou celles des âges obscurs qui lui succédèrent, et pendant lesquelles les migrations indo-européennes amenèrent des guerriers aux longs cheveux blonds dans les archipels de la mer Égée. Concluons en nous souvenant qu'Homère est avant tout le nom d'un miracle, ce moment où l'humanité fixa dans sa mémoire une réflexion sur sa propre condition. Et puis, fi de ces enquêtes byzantines. Après tout, est-ce qu'on a besoin de savoir que Balzac buvait du café pour apprécier la comédie humaine ? Les savants consacrent tant d'énergie à enquêter sur la plausibilité des choses qu'ils finissent par en négliger la substance. Alors laissons aux experts, ces spécialistes de l'accessoire, le soin de donner un visage à Homère, et nous, contentons-nous d'écouter la voix de la muse. L'Iliade et l'Odyssée sont si constitutives de l'âme européenne qu'elles ont été commentées par toutes les écoles de lettrés et de philosophes depuis deux millénaires. Platon le premier reconnaissait qu'Homère avait instruit les Grecs. Chaque vers a été commenté des milliers de fois. J'ai presque une névrose. Alors je dois avouer que c'est intimidant de s'avancer sur le parvis de cet édifice. Pourtant, chacun d'entre nous trouvera dans la vasque de ses chants un reflet de sa propre époque, une réponse à ses tourments, une illustration de ses expériences. Les uns tireront un enseignement, les autres chercheront un réconfort. Ou alors on peut faire comme Henry Miller à son débarquement en Grèce, lorsque l'Américain se félicite, dans le Colosse de Maroussi, de n'avoir jamais lu Homère, pour ne pas être influencé. Quant à moi, je vous avoue que je préfère me plonger dans le poème, m'y immerger jusqu'à l'obsession. Si je réussis à débarrasser les poèmes d'Homère des mauvais souvenirs d'école auxquels certains d'entre vous les associent, j'aurai réussi. Et quand viendra la fin de nos rendez-vous, je me sentirai caressé avec bienveillance par le regard de la déesse aux yeux de chouette, j'ai nommé Athéna. Un mot sur les traductions. Les textes que nous allons entendre lus par la bouche de nos deux aèdes, Karine Huguenin et Pierre Tissot, proviennent d'une Iliade et d'une Odyssée fixées officiellement au IVe siècle avant le Christ sous le règne du tyran athénien Pisistrate. Je me suis appuyé sur trois traductions, celle de Philippe Jacotet et de Victor Bérard pour l'Odyssée et celle de Philippe Brunet pour l'Iliade. Tous trois sont des poètes, tous trois sont des artistes et tous trois auraient fait de merveilleux aèdes au banquet des Phéaciens lorsque ceux-ci recueillirent Ulysse avant son retour à Ithaque. Puis-je ajouter une dernière chose, en forme de supplique aux autorités ministérielles de l'Éducation nationale ? Dans l'histoire de l'humanité, aucune œuvre artistique, les grands textes des révélations religieuses mis à part, n'ont suscité une telle abondance de lectures. Les Grecs ont civilisé le monde, disait Chateaubriand. Puisse Homère continuer à nous rendre meilleurs. Depuis quelques décennies, les humanités gréco-latines sont en recul. Et nous demandons bien modestement aux ministres de ne pas mépriser la capacité du plus petit des mômes à s'enthousiasmer pour les aventures d'Ulysse, la tendresse d'Andromaque et l'héroïsme d'Hector. En 1957, Bernard Berenson, historien et érudit, écrivait dans une lettre « Toute ma vie, j'ai lu des travaux sur Homère, philologiques, historiques, archéologiques, géographiques, etc. Désormais, je veux le lire seulement comme de l'art pur. » Eh bien, en avant pour l'art pur. À présent, parlons de la seule beauté de ce texte monumental. Car, avant d'être le poème de la guerre et le poème du retour, l'Iliade et l'Odyssée sont un trésor artistique.
Un été avec Homère. Avec Homère, Sylvain Tesson.
Nous l'avons un peu oublié dans nos époques hypnotisées par l'image, cette nouvelle idole. Au temps d'Homère, la poésie régnait en déesse. Le verbe était sacré. Les mots étaient ailés, comme le signale le poète à chaque fois qu'un héros prend la parole. Avoir son nom cité dans l'épopée était la gloire suprême. Cela signifiait qu'on allait verser dans la mémoire des hommes, qu'on allait sortir de l'anonymat, qu'on allait toucher à l'immortalité. Il y a vraiment quelque chose de sacré, de liturgique, à faire venir le poète à sa table et à l'entendre déclamer, aiguillonné par le dieu. Ulysse glorifie ainsi la présence du poète au festin des Phéaciens.
De tous les hommes, les Aèdes méritent les honneurs et le respect, car c'est la muse aimant la race des chanteurs qui les inspire.
Voilà, c'était le temps où la fierté n'était pas de passer à la télévision, mais d'avoir été chanté par un poète. Puis-je avouer que je regrette un peu ces défuntes années. Les vers étaient dits à haute voix, et l'aède s'accompagnait d'un instrument à cordes. Il nous en est resté la représentation symbolique du poète muni de sa lyre. Il faut se souvenir que l'Iliade et l'Odyssée sont des poèmes de la voix. Ils étaient destinés à être lus et à nous ensorceler quand nous les entendons. Chers auditeurs, faut tout de même pas pousser. Ne vous attachez pas avec des cordes quand vous entendrez nos comédiens lire à haute voix les passages du poème. Certes, Ulysse se ligota au mât du bateau pour entendre les sirènes sans être emporté par leur chant, mais les sirènes étaient néfastes, alors que les vers d'Homère sont une jouvence, et Radio France ne vous veut que du bien. Commençons par nous baigner dans la lumière du verbe. Écoutons le génie de la muse par la voix d'Ulysse. Nous sommes dans l'Iliade, nous sommes devant les remparts de Troie. Agamemnon, pour éprouver l'ardeur de ses troupes grecques, leur propose de cesser le combat. Voilà 9 années qu'on se bat. Chacun aspire à regagner son foyer. Mais c'est sans compter sur l'exhortation d'Ulysse.
On vit alors un signe. Nous étions là, stupéfaits, immobiles devant ce prodige. L'événement prodigieux avait interrompu l'hécatombe. Alors Calchas, inspiré, prononça soudain son oracle. Vous vous taisez, pourquoi donc, Achéens aux longues crinières ? Zeus, dieu de ruse, nous a donné ce signe grandiose. Tard venu, tard accompli, son renom ne pourra disparaître. Comme ce monstre a mangé les petits moineaux et leur mère, 8 et 9 en comptant la mère de cette famille, nous lutterons pendant autant d'années sur ces rives pour la 10e, prendre la ville aux larges ruelles. Telles étaient ses paroles, et tout s'accomplit à cette heure. Restez donc tous, allons, Achéens aux bonnes jambières jusqu'à ce que nous prenions à Priam ces hautes murailles.
Il se tut. Les Argiens hurlèrent. Autour des navires retentit la terrible clameur de la foule achéenne. Ils approuvaient le discours que tenait le divin Ulysse.
Les mots d'Ulysse ont soulevé le cœur de la troupe. Homère insistera souvent dans le poème sur le pouvoir revigorant de la parole. Le verbe réinsuffle la force dans les corps abattus et les âmes en détresse. C'est comme la lumière du soleil qui réveille un corps chiffonné après une nuit de bivouac. Le verbe pulse sa vigueur dans l'homme en peine. En cela, la parole est divine. Elle est l'aliment de l'âme. Elle est le baume pour les cœurs en détresse. Elle est une potion magique. Pour le grec, le verbe s'est fait force. Mieux, il est presque un dieu. Sans cesse, dans l'Iliade, nous allons entendre un guerrier magnifique ou un dieu possédé, debout, sur la barricade, qui lance ses incantations à la troupe découragée. Il associe la force physique à l'art oratoire et il relancera l'assaut par la puissance de ses mots. L'injonction soulève les hommes. À Troie, Achille, enfin sorti de sa bouderie, acceptera que ses troupes partent combattre avec Patrocle, son double, son frère. Et il les exhorte ainsi.
Allez, le cœur fougueux, combattre la foule troyenne.
Il excitait par ses mots l'ardeur et le cœur de chaque homme. Après avoir entendu leur roi, les cœurs s'affermirent. N'est-ce pas enthousiasmant pour nous, 2500 ans plus tard, pour nous qui vénérons les lettres, d'entendre la parole perfuser la magie ? Cela paraît si étrange. À l'heure où les écrans se sont dressés entre nous et le monde, et où l'image a détrôné les mots. L'image aujourd'hui fait basculer les opinions. Elle oriente les décisions politiques. Souvenons-nous de la photographie de la petite fille, hurlant sur la route, saisie par l'objectif de Nick Hutt, qui souleva l'indignation de l'opinion américaine et précipita l'arrêt de la guerre du Vietnam. Pour le moment, le pouvoir du verbe est aboli. Peut-être reviendra-t-il ce temps où les mots levaient les masses. Sur la beauté formelle de ces textes, Jacqueline de Romilly avait une théorie. Elle expliquait que la très difficile utilisation des techniques d'écriture de l'époque commandait une écriture parfaite. En d'autres termes, ce serait l'impossibilité pratique qui aurait aiguillonné le style. Imaginez Homère dictant péniblement à un scribe son poème. Il était si difficile de porter une phrase sur le papyrus avec un pinceau qu'il fallait la ciseler au plus haut degré de beauté avant même de la coucher sur le byblos, le papier. Et chacune de ces phrases se sertissait alors dans le texte comme un diamant de plus dans la couronne. Deux caractéristiques définissent le style d'Homère. Elles font briller le texte comme pétille la mer sous le soleil. Elles sont des inclusions d'or dans un manteau royal. Grâce à elles, on reconnaît immédiatement la manière, la musique d'Homère. Ce sont les recours permanents aux épithètes et c'est l'utilisation des analogies. L'épithète ornemente le nom, la comparaison relance le rythme. Les adjectifs et les comparaisons. C'est tout de même amusant de nous souvenir que nos maîtres d'école nous enseignèrent de ne pas trop user des uns et de ne pas trop abuser des autres. Avait-il entendu cette description de l'immense ébranlement des armées achéennes sur la plaine de Troie?
Comme le feu dévorant embrase des voies innombrables au sommet d'un mont et au loin apparaît sa lumière, ainsi, tandis qu'il marchait, l'éclat formidable du bronze resplendissait à travers les terres jusqu'aux cimes célestes. Comme les peuples d'oiseaux, espèces nombreuses et volages, ou des oies, ou des grues, ou des cygnes au col qui s'étirent, dans la plaine d'Asias, le long des flots du Caïstre, volent de toutes parts d'une aile forte et joyeuse, puis criaillant, se posent à terre, et la plaine résonne. Ainsi, les peuples nombreux, quittant baraques et barques, se répandaient dans les prés scamandriens. Et la terre retentissait bruyamment sous les pas des chevaux et des hommes.
Homère aime convoquer les images de la nature. Les élégies, les analogies avec le monde sauvage aident le poète à rompre la tension guerrière. Les analogies sont de quatre natures. Elles font intervenir les animaux, les végétaux, les phénomènes météorologiques et les scènes pastorales. Les animaux sont souvent convoqués pour indiquer la cruauté des bêtes fauves et le sort qui destine les troupeaux à la dent du carnassier. L'arbre, lui, est dépeint pour comparer la mort d'un homme à la chute. Et la nature cosmique tout entière est convoquée pour montrer la violence des œuvres du ciel sur la terre et l'ordre qui règne dans le cosmos. L'ordre parfait, l'ordre cruel, l'ordre éternellement tragique. La beauté de ces images, leur précision, leur acuité, indiquent qu'Homère, tout aveugle ou tout inexistant qu'il fût, a tout de même dû être un observateur ardent, un amoureux des collines, des montagnes, des nuits de grand vent. J'aime bien l'imaginer bivouaquant, nageant, pêchant, marchant dans les collines de la Grèce, participant aux travaux des récoltes. Il a vu, c'est sûr, les rapaces chasser les tourterelles. Il a dû voir la mer en furie déborder par-dessus le plat-bord des bateaux. Il a dû voir les moutons rentrer dans l'or du soir. Parce que sinon, ces descriptions n'auraient jamais la valeur de photographie aussi juste. Le recours aux comparaisons est aussi pour Homère l'occasion de rappeler que le monde n'est pas une vaste dalle de ciment uniforme, où pas une tête ne dépasserait, réduit à ce triste principe de l'égalité de toutes choses. Le monde, pour Homère, n'est pas la plaine de Beauce. Ce qui vaut pour les bêtes vaut pour les hommes. Certains sont plus forts, plus beaux, mieux doués que les autres, plus nobles, plus adaptés, plus chéris par les dieux. Et si le loup dévore la génisse, c'est parce que la nature l'a voulu. Une bête est dotée de crocs, une autre est un paisible herbivore, et la première mangera la seconde. L'ordre du monde repose sur ce principe, et la pensée grecque s'appuie sur la certitude qu'il ne faut pas le déranger.
comme un lion féroce s'attaque à des vaches qui vont paissant dans l'humide prairie d'un grand marécage par milliers, leur berger, au milieu, ne sait comment faire pour empêcher que le fauve ne tue les bêtes à cornes. Il va toujours après la dernière, avant la première, marchant du même pas. Mais le fauve dévore une vache au milieu et toute s'enfuit. Ainsi, la panique prit les Argiens, effrayés par Hector et par Zeus, notre père. Tous. Le seul qui l'oxy fut un Mycénien, Périphète, fils de Copré, qui venait jadis porter les annonces des travaux d'Eurysthée à la force héracléenne.
À convoquer la beauté, Homère saisit l'un des principes du divin, tel que les Grecs antiques le concevaient. Est divin ce qui apparaît, ce qui miroite devant nos yeux, ce qui se tient dans la présence pure, immanente, diraient les philosophes, ce qui vibre dans l'explosion du réel. Le divin se manifeste dans la simple expression de la vie. En fait, pour les Grecs, il n'y a pas de Dieu extérieur à sa création, comme les révélations monothéistes, juives et chrétiennes le prétendront plus tard. Mais il y a un revers. La nature souffre de son propre principe de renouvellement et de disparition. Chaque espèce connaît ce destin absurde, qui est le nôtre d'ailleurs, entre parenthèses, de la naissance involontaire et de la mort certaine. Cela donne à Homère l'occasion de sonder le mystère de la vie, le mystère de la surabondance de la vie et de la vanité du passage de l'homme sur la terre.
Telles les races des feuilles, telles les races des hommes, tantôt tombant sous le vent, tantôt s'accroissant innombrables, sous la poussée des forêts quand survient la saison printanière, ainsi des générations. L'une croît, l'autre s'efface.
Ce sont les paroles que Glaucos tient à Diomède. Homère se joue sans cesse à convoquer dans ses images toutes les facettes de cet enfantement monstrueux et inépuisable, des abeilles, des loups, des génisses, des dauphins, des moutons, des colombes, des chauves-souris, des asphodèles, des serpents, des oiseaux de proie. Peut-être faut-il voir dans cet appétit à décrire la verve féconde une définition du paganisme. Être païen, c'est vénérer et nommer les visages du vivant dans leur diversité, excitante, hostile, dangereuse, folle. Mettre un mot sur un éclat de la vie est une prière. Être païen, c'est se tenir devant le spectacle du monde et l'accueillir, sans rien espérer, aucun mensonge relatif au lendemain qui chante, ou pire, aux vies de l'au-delà. Homère répond à une autre question. Comment les mots peuvent-ils rivaliser avec l'ingéniosité du vivant qu'ils ont charge de décrire ? Et c'est là où Homère convoque l'épithète dont je vous parlais à l'instant. Il associe un adjectif à chacun des êtres en piste sur la scène. Les bêtes, les hommes, les dieux auront le droit à cet adoubement de leur être par la bénédiction de l'épithète. Des spécialistes trop épris de comptabilité nous expliquent qu'il s'est agi pour le poète de trouver une manière de respecter la métrique, c'est-à-dire le rythme de son vers. Vous voyez le genre d'explication. Enfin, moi, il me semble que c'est un argument d'apothicaire. Les épithètes manifestent en fait l'essence psychique, physique, qui caractérise le sujet auquel ils sont attribués. Le mot dessine un nimbe autour du dieu ou du héros. Il avance, blasonné d'épithètes, révélé dans sa présence par la grâce de quelques mots. Savoir Achille destin rapide, Achille divin visage, Achille cher à Zeus ou encore preneur de ville. Cela épargne les longues descriptions, non ? L'épithète est l'ADN de l'âme. Et voilà les champs de bataille de Troie, les îles enchantées de l'Odyssée, peuplées de créatures qui avancent sur la scène, suivies de leur épithète comme une aura de mots. Diomède le bouillant, Aphrodite, ami des sourires, Hector, casque-flamme, Héphaïstos, illustre artisan, Idoménée, meneur d'hommes, Iris, pied au vent, Achille, destin rapide, Phénix, cocher respectable. Zeus, lui, sera tour à tour l'assembleur de nuages, Zeus qui voit loin, Zeus tonnerre ou Zeus voix immense. Même la ville de Troie a le droit à son identité poétique. Elle sera la ville abrupte, la ville sainte, la citadelle porte haute, l'opulente cité populeuse, la charmante, la désirable, aux larges ruelles, la poulinière féconde. Finalement, l'adjectif est l'hommage que le mot rend au manteau d'Arlequin du réel. Il y a une épithète dans l'Odyssée qui illustre ce tournoi homérique mené entre l'imagination du poète et la réalité du monde. Quand Ulysse rentre à Ithaque, il rencontre son vieux porcher. C'est le seul qui a gardé intact son honneur et sa fidélité au maître. Homer n'emploie justement pas l'adjectif « fidèle » ou « courageux » ou « vertueux », mais Homer emploie l'épithète « divin ». Alors ce mot a fait couler beaucoup d'encre. Les commentateurs, les penseurs se sont demandé pourquoi considérer comme « divin » un gardien de cochon. Soyons un peu philosophes. C'est peut-être parce que l'adjectif « divin » exprime justement ce que cherchent à cerner les épithètes, ce à quoi aspire l'adjectif, l'expression de l'entière manifestation de l'être, la vérité pure de ce que la présence peut offrir au regard. Il est le seul vivant, après toutes ces rencontres de monstres étranges, de divinités bizarres, qui soit en parfait accord avec sa vérité d'homme, simple et bon. Être soi dans la lumière, pleinement, entièrement accordé à sa vibration. C'est cela, être divin. Qui peut se targuer d'une telle épithète? Ce serait amusant d'ailleurs que chacun d'entre nous s'essaya à l'exercice homérique de la description de soi-même par une épithète. Nous avons l'été pour cela. Beaucoup d'entre nous, et moi le premier d'ailleurs, useraient d'adjectifs agréables, flatteurs. On se dirait, pourquoi ne pas s'octroyer une petite flatterie? Qui d'entre nous serait capable de tomber juste, d'utiliser l'épithète au plus près de soi? Bavard et laborieux. Alors voilà exactement l'épithète que j'aimerais pour mon compte ne pas sentir surgir en réécoutant ce que je viens de vous raconter sur le chatoiement de la langue homérique et la gloire de sa seule beauté qui se passe si bien de toute explication. Nous n'allons pas nous noyer dans les explications. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter ce qui se passa il y a plus de 2500 ans, c'est-à-dire ce matin, sur la plaine de Troie, c'est-à-dire ici même.